Évangile selon Matthieu, chapitre 2, les mages, versets 1 à 12.
Lecture de la parole. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda. » Car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait, et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, « Allez et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Et eux, ayant ouï le roi, s'en allèrent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vînt et se tînt au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère. Et, se prosternant, ils lui rendirent hommage, et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Et étant avertis divinement, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin.
Lecture de l'étude.
Au moment de la naissance du Seigneur, des mages en Orient virent une étoile par laquelle ils comprirent que le roi des Juifs était né. Ces mages, s'occupant d'astrologie, de magie et de certaines sciences, étaient en honneur dans les cours royales. Ceux qui sont mentionnés ici, tout en appartenant à cette classe de savants, étaient sans doute pieux. Ils savaient qu'un roi était promis aux Juifs et ils l'attendaient. Nombre 24, verset 17.
Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte.
Avertis de sa naissance par l'apparition de cette étoile, ils se mirent en route afin de lui rendre hommage. Arrivés à Jérusalem, ils demandent à voir le roi des Juifs qui a été mis au monde, s'attendant sans doute à trouver la ville remplie de joie par cet événement. Hélas, il n'en était rien. Le peuple n'attendait pas plus son roi que les peuples chrétiens n'attendent aujourd'hui la venue du Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 1, verset 10.
Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient.
Lorsque Hérode apprit l'arrivée des mages et le but de leur visite, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit donc les principaux sacrificateurs et les scribes pour leur demander où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem de Judée ». Car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. » Michée 5, verset 2. Le trouble causé par la nouvelle de la naissance du roi promis par les Écritures nous fait voir dans quel triste état se trouvait le peuple, ramené de la captivité, conservés sur leur terre au travers de mille difficultés pour attendre leur Messie, gémissant sous le joug des Romains, ayant sur eux un roi exécrable, le misérable Hérode, un étranger. Note en bas de page, cet Hérode est appelé dans l'histoire Hérode le Grand, d'origine iduméenne. Les Iduméens étaient issus des dons et n'avaient aucun droit à régner en Israël. Il était, par un de ses nombreux mariages, allié à la célèbre famille juive des Maccabées. C'est par finesse qu'il obtint des Romains le trône de Judée. Véritable tyran, cruel, ambitieux, il faisait mourir tous ceux qui lui portaient ombrage, dans le peuple comme dans sa famille. Soupçonneux, méfiant, ce qui arrive lorsqu'on a mauvaise conscience, il se débarrassait de ce qui le gênait. Cela fait comprendre le peu de cas qu'il fit de la vie des petits-enfants de Bethléem, pensant atteindre dans le nombre un prétendant au trône qu'il occupait à tort. Pour rendre son règne tolérable aux Juifs, qui naturellement le haïssaient, il fit restaurer splendidement le temple de Jérusalem. On travailla 46 ans à cette reconstruction. C'est à ce temps que les Juifs font allusion en Jean 2, verset 20. Hérode mourut l'année après le massacre des enfants de Bethléem, après un règne de 34 ans. Son fils, Archélaüs, lui succéda. Il fut aussi cruel que son père. Son règne fut court. Hérode, dont il est parlé dans les évangiles, pendant le ministère du Seigneur, était un autre fils d'Hérode le Grand, mais il était, comme nous le voyons en Luc 3, verset 1, tétrarque de la Galilée. Le titre de tétrarque désignait à l'origine celui qui gouvernait la quatrième partie d'un état démembré. Il régna jusqu'après la mort du Seigneur. Le roi Hérode, nommé Hérode Agrippa I dans l'histoire, dont il est parlé au chapitre 12 des Actes, sans être fils du précédent, était petit-fils d'Hérode le Grand et roi de Judée. Agrippa II, devant lequel l'apôtre fit son apologie à Césarée, était aussi un Hérode, fils du précédent. Possédant les Écritures qui leur annonçaient la délivrance par l'arrivée de leur vrai roi, le fils de David, les Juifs ne l'attendent nullement. Au contraire, sa naissance les troubla au lieu de les réjouir. Cela nous fait voir que la présence de Dieu gêne les hommes plus que leurs maux et leurs peines. Hélas, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, avec la lumière du christianisme, on n'attend pas davantage le Seigneur, et pourtant chacun, comme les sacrificateurs et les scribes d'alors, possède la parole de Dieu qui enseigne clairement que le Seigneur va revenir. Il y a longtemps que l'Église professante a perdu de vue cette vérité, qui déplaît au cœur naturel et qui effraie le monde, car après l'enlèvement des saints éclateront les jugements apocalyptiques. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Alors une subite destruction viendra sur eux et ils n'échapperont point, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, tandis qu'il apparaîtra à salut à ceux qui l'attendent, Hébreux 9, 28. Tous nos lecteurs l'attendent-ils?
Personne n'était plus troublé à Jérusalem qu'Hérode, le faux roi des Juifs.
Aussi appela-t-il secrètement les mages pour savoir quand l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, leur disant de revenir auprès de lui lorsqu'ils auraient trouvé le petit enfant, feignant de vouloir, lui aussi, lui rendre hommage, tandis que son cœur était rempli du désir de le faire mourir. Dieu guidait ces mages pieux. Ils se servaient de la connaissance qu'avaient les sacrificateurs pour leur enseigner où ils trouveraient celui qu'ils cherchaient. Et lorsqu'ils furent en route, il fit apparaître l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Elle alla devant eux et se tint au-dessus du lieu où était Jésus. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe, verset 11. Dieu veillait à ce que son fils reçût, à son entrée dans ce monde, les honneurs dus à un roi. Puisque les chefs de son peuple n'étaient pas en état de les lui rendre, il trouva ses sages d'entre les gentils pour accomplir ce service. En Luc, d'humbles bergers sont admis à voir le Seigneur à sa naissance, puisque le peuple ne l'attendait pas. Dès le début de sa vie ici-bas, le précieux Sauveur a été méconnu, méprisé. Mais Dieu a toujours enseigné à quelques-uns à le discerner, à le recevoir et à l'honorer. Il en est de même aujourd'hui. Hérode et les enfants de Bethléem, versets 13 à 18.
Lecture de la parole. Après qu'ils se furent retirés, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et lui, s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte, et il fut là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère, et il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont ils s'étaient enquis exactement auprès des mages. Alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète, disant, « Une voix a été ouïe à Rama, des lamentations, et des pleurs, et de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont pas. »
Lecture de l'étude.
Dieu veillait sur le divin enfant qui, par sa naissance dans ce monde, était exposé à la haine de Satan et des hommes. Connaissant les criminelles intentions d'Hérode, Dieu avertit les mages de retourner dans leur pays sans passer auprès du roi, ce qu'ils firent, verset 12. Après leur départ, Joseph eut un songe dans lequel le Seigneur lui apparut et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr, verset 13. » Avant même qu'Hérode n'eût formé son criminel dessein, Dieu ordonnait à Joseph de fuir en Égypte. Le misérable roi ignorait qu'au-dessus de lui, il y en avait un qui connaît les pensées des hommes, psaume 97, verset 7, et il savait encore moins quelle était la gloire de ce petit enfant auquel personne ne pouvait ôter la vie, car Jésus ne mourut qu'en se livrant lui-même. Toutefois, pour protéger son fils, Dieu n'a pas voulu accomplir un miracle qui eût attiré l'attention des hommes, mais il prévint Joseph en silence, comme si Jésus eût pu être mis à mort. Puis cela permettait l'accomplissement d'une prophétie d'Osée qui disait « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » Osée 11, verset 1. Comme Israël avait été appelé hors d'Égypte autrefois, Christ devrait l'être, lui le vrai Israël. Mais avec cette différence, que celui qui devait sortir d'Égypte n'avait pas besoin d'être délivré comme Israël l'avait été. Il venait lui-même pour délivrer le peuple du pouvoir d'un plus puissant que le Pharaon. Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère. Le caractère et l'origine de cette colère sont faciles à comprendre. Satan savait que la semence de la femme devait lui briser la tête. Aussi, depuis la chute, fit-il tout son possible pour empêcher l'exécution de cette sentence. Sachant que cette semence, Christ, surgirait du peuple juif, il essaya maintes fois d'exterminer cette race, ainsi en Égypte, lorsque le Pharaon ordonne de jeter les enfants mâles des Hébreux dans le fleuve. Souvent il amena le peuple sous les jugements de Dieu par ses péchés, croyant le détruire ainsi. La race royale, où devait naître le Christ, fut près d'être anéanti par la reine Athalie. Il n'en resta que Joas, un enfant sauvé par la fille du sacrificateur Jéhoïada. Dans notre chapitre, c'est Hérode qui est l'instrument du diable pour faire disparaître Jésus, quand il ordonne de mettre à mort les petits-enfants de Bethléem. Il crut finalement triompher en poussant les hommes à crucifier le Seigneur, mais c'est alors qu'il fut rendu impuissant et eut la tête brisée. Apocalypse 12, verset 4, résume tout cet effort de Satan en nous montrant celui-ci dans un tableau symbolique prêt à dévorer l'enfant mâle qui devait naître de la femme symbole d'Israël.
Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que, lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant.
Mais c'est en vain que Satan et les hommes cherchent à s'opposer à Dieu. Dans un jour à venir, les rois de la terre se lèveront ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Et il est dit, « Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. » Le Seigneur s'en moquera, psaume 2, verset 4. Croyant ne pas manquer son but, Hérode fait tuer tous les petits enfants mâles qui se trouvent dans le territoire de Bethléem, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps, est-il dit, dont il s'était enquis auprès des mages, verset 16. On peut comprendre, d'après ce passage, qu'il s'était écoulé environ 2 ans depuis que l'étoile était apparue aux mages en Orient, leur annonçant la naissance du Seigneur. Donc le petit enfant Jésus était en tout cas dans sa 2e année à ce moment-là. Note en bas de page, en prêtant attention au récit biblique, on voit qu'il est absurde de placer les mages et les bergers ensemble à l'étable de Bethléem, comme on l'a fait dans certains chants et récits relatifs à la naissance du Seigneur, puisque les bergers paraissent à sa naissance, tandis que les mages ne vinrent qu'environ 2 ans plus tard. La douleur causée à Bethléem par le massacre de ses enfants entrait dans l'accomplissement d'une prophétie de Jérémie, chapitre 31, verset 15, « Une voix a été ouïe à Rama, des lamentations et des pleurs, et de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont pas. » Rama désigne la contrée dans laquelle était située Bethléem. Si le Seigneur avait été reçu, accomplissant la restauration d'Israël dont parle ce chapitre 31 de Jérémie, ses petits-enfants n'eussent pas été mis à mort. Ils auraient joui de son règne. Mais ayant participé immédiatement à la réjection de Christ, ils auront leur part avec lui dans la gloire céleste, ce qui vaut encore infiniment mieux. Pour la terre, il est vrai, leur mort est un sujet de pleurs. Il est triste aussi de penser qu'un des premiers effets de la présence de Christ ici-bas ait été le massacre de ses petits-enfants. Cela montre ce qu'est le cœur de l'homme. Mais, comme quelqu'un l'a dit, si la terre se vide, c'est pour remplir le ciel. Le but de Dieu est de peupler, avec des hommes parfaitement heureux, une terre nouvelle. Voilà pourquoi, dans son insondable amour, il a fait descendre son Fils bien-aimé sur cette terre corrompue et remplie de violence. Retour d'Égypte, versets 19 à 23.
Lecture de la parole. Or, Hérode étant mort, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte, disant « Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. » Et lui, s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint dans la terre d'Israël. Mais, ayant ouï dire qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller, et ayant été averti divinement, en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée, et alla et habita dans une ville appelée Nazareth, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen.
Lecture de l'étude. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte pour lui annoncer qu'Hérode était mort. « Lève-toi, lui dit-il, et prends le petit enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël. » Comme il avait obéi pour s'en aller, il obéit maintenant pour revenir. En chemin, apprenant qu'Archélaüs régnait en Judée et craignit d'y aller, sachant sans doute que le fils était aussi cruel que le père. Averti encore divinement en songe, Joseph se retira en Galilée et alla se fixer à Nazareth où il habitait auparavant, comme nous l'apprend l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 26-27.
Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et Luc 2, verset 4. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David.
Marie et Joseph avaient quitté cette ville pour venir à Bethléem en vue du recensement ordonné par l'empereur Auguste, circonstance dont Dieu se servit pour que son fils naquît à Bethléem, selon les Écritures. Ils revinrent à Nazareth, non seulement à cause de la méchanceté d'Archélaüs, mais afin que s'accomplît encore cette parole des prophètes, il se rappelait Nazaréen. Ce terme indique non seulement qu'il venait de cette ville, dont le nom signifie « séparé, consacré », mais désignait aussi le caractère de Jésus comme le vrai Nazaréen, l'homme absolument séparé de toute influence de ce monde pour servir Dieu dans une parfaite consécration. Sa perfection comme Nazaréen provenait de sa divinité, mais se réalisait dans sa parfaite humanité. Le nom de Nazaréen était aussi un terme de mépris par lequel l'homme, dans son aveuglement et sa haine, désignait celui qui, dans sa parfaite sainteté, était l'expression de l'amour de Dieu pour le pécheur. Car Nazareth était un endroit méprisé dans la contrée de Galilée, qui elle-même aussi était méprisée par les Juifs. Note en bas de page, quoique les Galiléens fussent Juifs, les Juifs, dans les Évangiles, sont les habitants de la Judée. Dans quelle humilité le Seigneur est venu pour nous sauver, cher lecteur, lui, le Fils éternel de Dieu, Dieu lui-même, s'anéantissant comme tel, prenant la forme d'esclave. Trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même. Philippiens 2, versets 7 et 8.
S'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix.
Dès sa naissance, il est méprisé et délaissé des hommes, celui qui réalise dans toute sa vie ici-bas qu'il est l'homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Ésaïe 53, verset 3. Dès son entrée dans ce monde, il doit fuir la persécution. Rentré dans son pays, la méchanceté de l'homme le contraint à se retirer dans une contrée et dans une localité méprisée par l'orgueil du Juif. Et là, dans l'humilité, il passe 30 années sur lesquelles nous n'avons pas de détails, sauf ce qui est rapporté en Luc 2, versets 41 à 52.
Et ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, comme ils étaient montés à Jérusalem, selon la coutume de la fête, et qu'ils avaient accompli les jours de la fête, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem, et ses parents ne le savaient pas. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchèrent le chemin d'un jour et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. Et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Voici, ton père et moi nous te cherchions, étant en grande peine. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? » Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth et leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles dans son cœur. Et Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes.
Il travaillait du métier de Joseph, car non seulement il est appelé le fils du charpentier, mais aussi le charpentier, Marc 6, verset 3. Cet abaissement du Sauveur ne touche-t-il pas nos cœurs lorsque nous nous disons en le considérant « C'est pour moi qu'il a quitté la gloire pour prendre une telle place dans ce monde » et finalement pour subir sur la croix le jugement terrible que j'avais mérité à cause de mes nombreux péchés. Combien alors la vie de ceux qui connaissent le Sauveur et jouissent de son amour ne doit-elle pas lui être consacrée et ressembler à la sienne dans l'humilité, le renoncement, ses caractères du Nazaréen, séparés de toute souillure, consacrés à Dieu, que lui a réalisé dans toute leur perfection? Si nous avons le privilège de croire en ce Sauveur bien-aimé, imitons son exemple. Le secret pour suivre sa trace, c'est de l'aimer, et le secret pour l'aimer, c'est de penser à son amour pour nous et d'en jouir.